Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. John Chedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique, donne cette année son dernier cours. Belle occasion pour lui de revenir sur un ensemble de questions et de nous montrer ce qu'est le mouvement vivant de la recherche. Dans le cours que nous avons suivi hier, John Chedd a poursuivi une enquête sur les religions dans les provinces de l'Empire en la centrant sur les provinces de Germanie et de Belgique. Il s'est notamment intéressé au culte de Mars dans la ville de Trèves, au culte d'Hercule chez les Bataves et à Tongres, l'une des trois plus anciennes villes de Belgique, mais aussi au culte des Matrones à Cologne. John Chedd observe que les gens de Trèves se voient comme des guerriers. Ils se firent d'ailleurs enterrer en armure jusqu'à ce que l'usage ne tombe en désuétude. Inversement, les Bataves peuvent s'intéresser à Hercule dont la vie et les exploits sont liés aux troupeaux. À Cologne, le culte de déesses locales qu'on appelle des matrones, des déesses mères, est plus mystérieux. Et John Chedd conclut avec humour, en ce qui concerne les matrones, tout est fou. Aujourd'hui, John Chedd se propose de parler des mythes qu'il conçoit non pas simplement comme un récit, mais comme une concaténation de catégories selon son expression, d'où peuvent émerger des récits, mais aussi des images et des rites. Dans le livre qu'il a publié avec Jesper Svenbro, « La tortue et la lyre » dans l'atelier du mythe publié aux éditions du CNRS, John Chedd précisait « La mythologie, toujours au sens courant du terme, ne saurait se cantonner dans le seul domaine des récits. Les informations dont elle tient compte dans ses analyses sont de provenance trop hétérogène pour que l'on puisse croire à une hégémonie absolue du narratif dans le domaine de la mythologie. Ce matin, John Chedd retient deux exemples qui n'avaient pu trouver place dans ce livre. Les interprétations du mot « capitolium » et le rite du « clou ». Écoutez.
L'existence du lien qui rattache les dieux et leur théologie au mythe est un phénomène bien connu, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'explorer avec vous il y a 2 ans. Et c'est précisément sur cette mythologie, sur cette pensée qui est à l'œuvre dans ce champ narratif spécifique, mais aussi plus largement sur le comparatisme que nous reviendrons. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être que nous avons tenté d'analyser il y a quelques années ce livre étrange composé par Plutarque vers 100 après Jésus-Christ et qui porte le titre de « Questions romaines ». J'essayais alors de dégager la structure selon laquelle est construit ce traité qui expose en 113 questions les données que son auteur considérait comme les plus marquantes des coutumes ancestrales des Romains. Ceci sans qu'aucune introduction ni aucune précision ne vienne expliciter la nature ou l'intention du livre. J'ai montré que le propos de ce traité était en fait d'évoquer un certain nombre de lieux de mémoire de Rome, tous situés entre le Forum Boarium, là où est la Bocca della Verità, que tous les touristes connaissent, le Capitole et le Grand Cirque, donc un secteur assez réduit du vieux Rome. Au cours de la promenade virtuelle qui est censée se dérouler entre ces divers lieux, la vue des monuments qui apparaissent successivement au regard du promeneur ou de celui aussi qui regarde d'en haut, on peut imaginer plusieurs façons de faire cette promenade virtuelle, suscite, déclenche les questions qui constituent la manière même du livre. L'année dernière, j'ai publié avec Jesper Svenbro un volume d'études mythologiques qui illustre ce que nous croyons être le principe des mythologies grecques et romaines. Il y a 20 ans, nous avons inventé dans un livre précédent le concept, un concept que nous avons baptisé mythologie générative. Nous écrivions alors que la mythologie, au sens courant du terme, ne saurait se cantonner, je cite ce que nous écrivions, dans le seul domaine des récits. Les informations dont elle tient compte dans ses analyses sont de provenance trop hétérogène pour que l'on puisse croire à une hégémonie absolue du narratif dans le domaine de la mythologie. C'est en effet en pensant à ces difficultés que nous avons été amenés à voir dans le mythe non pas un récit, en premier lieu, mais une simple concaténation de catégories, concaténation qui rend possible à l'intérieur d'une culture donnée l'émergence de récits mythiques, d'images et de rituels dans les champs qui leur sont propres. Envisager ainsi, donc de façon beaucoup plus ouverte, le rapport entre récits, images et rituels, désormais à égalité entre eux, est moins celui d'un reflet spéculaire que celui d'une parenté qui confère à ces différents documents, moyens d'expression, un air de famille dont l'origine est cette concaténation même de catégories que nous appelons mythe. Nous avons testé cette intuition avec ce que nous appelons le mythe du tissage, et c'est cela que nous exprimions dans ce livre. Puis, dans la tortue et la lyre, nous avons développé un certain nombre d'autres exemples grecs et romains, parmi lesquels d'ailleurs un mythe sur Vertumnus. La promenade virtuelle que Plutarque exécute dans le plus ancien quartier de Rome, au pied du Palatin, qui est encore plus ancien, illustre tout à fait à sa manière le principe en question. Certains lieux sont porteurs d'une signification immédiate en raison de la tradition ou des pratiques sociales qui leur sont attachées. Les concaténations sont d'une autre nature dans ce cas. Ainsi, par exemple, le grand cirque, quand un Romain de l'époque le regardait, immédiatement, à ses yeux, sautait à son esprit la concaténation premier Romain mariage, c'est-à-dire le rap des Sabines qui avait lieu là-dedans, par où les premiers Romains acquirent des femmes et, après une guerre, fondèrent la nation, le peuple romain. Et Plutarque parle à chaque fois qu'on envisage le grand cirque de mariage, de matrones, de femmes et de choses de ce genre. Alors, prenons des exemples. Je vais prendre deux exemples pour réfléchir sur, pour vous montrer comment donner des compléments à ces essais que j'ai faits auparavant. Moi, je m'occupais du côté romain. Et mon ami Sven Bro réalisait cela et donnait son point de vue, et quand lui, il s'occupait des Grecs, moi, j'intervenais de la même manière du point de vue romain. Ici, nous sommes à Rome, et c'est donc du Capitole, du mot Capitolium qu'il s'agit, et de la réalité, cette colline du Capitole. Donc, regardons de plus près la façon dont fonctionne ce procédé, qui consiste à tirer d'un lieu donné tous les sens possibles, en prenant un exemple précis, en l'occurrence celui du Capitole, et plus exactement celui du nom, comme je disais, qui est le sien. Nous reviendrons ensuite plus loin sur le rite associé au temple qui se dresse sur cette colline, laquelle évoquait pour n'importe quel Romain de la fin de la République, donc du début de notre ère, mettons, la domination que Rome exerçait désormais sur le monde entier. Cette colonne était en effet le lieu sur lequel se dressait le temple des divinités souveraines de l'État, le lieu où commençait l'année, où étaient définies les missions des magistrats suprêmes et où leurs entreprises les plus importantes arrivaient également à leur terme sous la forme du triomphe. De ce fait, le Capitolium, terme dont l'origine est méconnue, suggérait immédiatement aux esprits qu'il était le caput, mettons Italiae, la tête de l'Italie, le caput mundi, la tête du monde, caput omnium rerum, la tête de toute chose, puisque le monde entier était soumis aux Romains. Le monde, c'est la partie occidentale entre la mer Noire et Gibraltar, l'Écosse et le Sahara et l'Euphrate. C'est ça le monde pour les Romains. À partir de là, des récits ont été élaborés. Et ce sont ces récits que nous regarderons. Le développement le plus important, le plus simple, consistait à raconter qu'on avait trouvé une tête en creusant les fondations du temple de la triade capitoline, le temple d'État le plus important. L'érudit Varron constitue notre première source et il se livre, comme il le fait souvent, à un jeu purement étymologique, sans préciser ce sur quoi cette étymologie pouvait déboucher. Capitolium n'a pas de vrai sens, hein, mais les Romains ont essayé d'analyser ce terme, et c'est l'exemple où l'on voit comment un mot, par ses étymologies possibles, est une concaténation de quelques concepts qui peuvent produire ensuite toute une série de récits. Et là, il expose froidement le fait qu'il y a une tête humaine, et vous voyez la relation entre caput et la tête. C'est Tite-Live, dans son histoire romaine, qui entreprend de développer pour en faire ce départ, pour en faire une histoire. Tite-Live, je l'appelle ainsi, mais il est possible que Tite-Live et les autres auteurs que je citerai encore aient repris ce récit à une source plus ancienne déjà, mais nous faisons l'histoire avec ce que nous avons. Tite-Live assimile cette tête à un prodige. C'est en fait une sorte de miracle au moment où on fait les fondations qui est chargé d'annoncer à la fois la grandeur de l'Empire et le fait que Rome serait imperi caput quererum, la tête de l'Empire et de toute chose. C'est ça les termes importants de ce texte. Hein. Et c'est un prodige qui annonce la grandeur de Rome. Tous les prophètes, tous les devins, ceux qui étaient à Rome, comme ceux qu'on avait fait venir d'Étrurie pour les consulter, fournirent la même interprétation. À partir de là, un récit plus complexe pouvait se développer. Peut-être que Tite-Live le connaissait, mais il n'en parle pas. Souvent, il est aussi assez sec et il ne se laisse pas aller trop dans ses légendes, comme il dit, etc. Mais on a des traces de ce récit. Comme chez Tite-Live, on se rappelle toujours la prééminence qui était celle des aruspices étrusques à l'époque de la fondation du temple. On est au 6e siècle avant, au début du 6e siècle, la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les aruspices dans toute l'historiographie sont importants. En tout cas, le développement de cette affaire nous sont donnés, entre autres, par Denis d'Halicarnasse et le commentateur de Virgile Servius. Denis d'Halicarnasse, donc là nous sommes à l'époque d'Auguste, raconte l'histoire suivante. C'est toujours la même histoire, mais des éléments supplémentaires se greffent sur ce degré zéro du mythe que vous avez chez Varron, par exemple. Quand les ouvriers affectés par Tarquin le Superbe, le dernier roi étrusque, à la construction du temple capitolin, ils trouvèrent la tête dont il a déjà été question. Tarquin envoya des ambassadeurs en Étrurie. Quand ils arrivèrent à destination et s'apprêtaient à entrer dans la maison de l'aruspice, le fils de ce dernier en sortit. Et il commence par les avertir de bien faire attention à ce que dira son père et à ce qu'il les poussera à faire, parce que son père, c'est clair, c'est le jeu entre hic et illic, là-bas et ici. Il veut que les Romains, en gros, ils dessinent Rome sur le sol devant lui, en Écrurie, à Tarquinia, et il demande qu'on lui montre où sera la partie du monde où cette tête a été trouvée et qui fera de cela, de cet endroit-là, le sommet du monde, le maître du monde. Et une fois qu'on l'a montré sur le sol, c'est donc en Étrurie, ce n'est plus à Rome. Vous voyez, le fils a c'est une histoire, hein. C'était bien trouvé. Et voilà, le deuxième texte sur l'histoire. Je vous montre juste le texte latin. C'est le commentateur de Servius qui raconte absolument la même tradition et la relie même à un quartier de Rome, l'Argilette, et dont également le nom Argus est utilisé pour comme nom du jeune homme. Et en gros, c'est quand le père apprend que les ambassadeurs romains ne se sont pas laissés rouler et ils répondent toujours de façon très imprécise, sans jamais dire là, mais ils ne racontent que la découverte sur le forum, enfin sur le Capitole de Rome, au bord du Tibre. À la fin, le devin s'est donné battu, mais il a demandé « Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en route ?» Et ils disent « Bah oui, uniquement ton fils. » Il a compris, il se précipite à Rome et tue son fils parce qu'il a privé l'Étrurie de la suprématie sur le monde, en quelque sorte. Voilà donc la fameuse histoire d'Argus qui révéla les menées possibles de son père, grand aruspice, mais aussi personnage un peu fourbe qui essayait d'attribuer à sa propre cité la prophétie qui s'était manifestée à Rome. Et donc, il le tua et nous avons chez Varron aussi l'exemple d'un même jeu de mots sur l'argilette, n'est-ce pas? Pour l'argilette, il est une tradition écrite qui fait venir le mot de Argus Laesus, Argus frappé, sous prétexte que l'homme était à cet endroit, il a été enterré. D'autres le rattachent à Argile, là, vous voyez que c'est ces jeux de mots étymologiques qu'on faisait couramment dans l'Antiquité. Et en fait, le jeu de mots était plutôt argiletum, parce que argi, c'est le génitif d'Argus, et letum, c'est la mort d'Argus. Donc vous voyez que ces termes qui n'avaient aucun sens, on ne sait pas d'où viennent ces mots, même à l'époque romaine, eh bien, sont des concaténations possibles de récits potentiels, si vous voulez. Et ainsi, les deux récits partent de toponymes pour raconter toute une histoire. Revenons au Capitole. Je crois que, bon, c'est pas encore fini. On n'avait pas encore exploiter toutes les concaténations que le nom était susceptible de livrer. Parce qu'évidemment, on peut le tourner dans tous les sens pour voir. Les traditions que je viens de citer exploitent toutes, comme on l'a vu, le premier élément, caput, capit, caput, rapproché de caput, et la signification politique du lieu, éminent, la tête de tout. Une autre tradition existait qui utilisait aussi le deuxième élément, olium. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Alors, les Romains ont utilisé pour cela olus. Olus était une forme, une prononciation vulgaire du prénom Aulus, parce que le Aou, à partir d'un certain moment, au début de notre ère, était prononcé dans les quartiers populaires olus. Il y a une célèbre blague de l'empereur Vespasien, 70 ans plus tard, où un certain Florus, c'est un surnom courant en romain avec un O, faisait des remarques à Vespasien, qui était de Sabine, d'avoir un parler un peu vulgaire. Il dit « Tu as raison, cher Florus », il lui a répondu en faisant la blague sur cette équivalence entre « ao » et « o » en latin « parlé ». Il pouvait donc être question du caput oli, c'est-à-dire la tête d'Olus. Et cette histoire a été exploitée par quelqu'un qui n'était pas tellement favorable aux Romains, le polémiste chrétien Arnob, qui rapporte une histoire sinistre construite sur cette construction, qui devait jeter l'opprobre sur le Capitole, centre du monde, où aurait été le tombeau d'un Olus de Vulci, il dit même, la cité étrusque de Vulci, et qu'on aurait retrouvé là. Et le polémiste cite les annalistes romains, les vieux historiens romains, qui auraient raconté l'histoire de cet Aulus assassiné par l'esclave de son frère, ajoutant qu'on avait caché ce qu'était devenu cette tête une fois coupée, et que pour cette raison, il n'avait pas été possible d'enterrer cet Aulus dans sa patrie, toute une histoire d'un crime sordide. On aurait cherché, en d'autres termes, à dissimuler une histoire particulièrement sordide dont on ne parlait plus pour éviter qu'elle vienne entacher la belle prophétie qu'annonçait la version officielle. On devine derrière toute la polémique sur le Capitole, tête du monde. On dit en fait, c'est pas un prodige, c'est pas une annonce de grandeur, c'est un sinistre fait divers, on avait assassiné quelqu'un et on avait mis sa tête là pour que personne ne la trouve, et bon, ses ouvriers l'ont trouvé, alors on a fait toute une histoire, mais en fait, c'est simplement un fait divers sinistre. Donc vous voyez les deux aspects de la question par des gens qui avaient des opinions opposées. On voit donc de quelle manière le nom Capitolium s'est trouvé interprété de plusieurs façons pour produire finalement des significations qui peuvent se contredire. J'ai dit tout à l'heure que la version majoritaire n'avait retenu qu'un élément du nom, capit, sans utiliser olium, sauf dans ce dernier cas, caput oli. Sinon, on utilisait uniquement le premier élément, c'est certain, mais je me demande toutefois si derrière les explications qui se référaient à l'avenir de ce lieu destiné à devenir la tête du monde, on n'avait pas aussi utilisé de manière implicite le deuxième élément de cette étymologie. Si vous regardez Capitolium, Capitolium, et je le traduis en grec, ça donne kephale holou, c'est-à-dire la tête de tout, la tête du tout, littéralement. Or, il y avait à Rome une tradition de deux grammairiens qui s'appelaient Hypsicrates et Cloatius Verus, qui faisaient dériver les étymologies du grec. Tous les mots romains avaient une étymologie grecque. Et donc, je ne serais pas du tout étonné que des grammairiens romains aient dérivé Capitolium de Kephale Holou, ce qui peut marcher, hein, Holus, Caput, et c'est des jeux comme on les faisait. Caput omnium rerum, la tête de toute chose, que mentionne d'ailleurs Tite Live dans son récit. Un sens qu'à ma connaissance, toutefois, aucun auteur antique conservé n'a formulé et que nous ne pouvons qu'ajouter à la liste des spéculations possibles sans être certain qu'un ancien ait jamais pensé à associer les deux termes grecs. Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible qu'ils aient même cela comme sous-entendu quand ils parlent du Capitole de Caput Omnium Rerum, Caput. Kephale holou. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner que les mêmes éléments puissent donner naissance aux mythes les plus divers, même opposés, dans la mesure où les catégories, les notions qui les constituaient et qui servaient à les produire n'avaient aucune valeur absolue. Il suffisait de rester dans la vraisemblance et de respecter les règles du genre pour que l'histoire produite devienne acceptable. Et vous voyez que donc le récit n'est manifestement pas premier dans ces histoires. Il y a la concaténation abstraite de catégories qui produit le récit. Nous allons faire une deuxième incursion maintenant dans le monde de la liturgie, de la mythologie, pardon, et de la liturgie par ailleurs, en étudiant un rite, celui du clou annuel, clavus annalis, de l'araignée noire et les aléas du comparatisme. Et là, on va comparer, au-delà des siècles, deux traditions, des récits et des rites étonnamment proches, mais qui, vous le verrez, ne sont pas si proches que cela, s'ils sont quand même différents. Je voudrais donc vous présenter ce thème célèbre dans l'histoire romaine comme dans la littérature allemande, qui présente des points communs dans plusieurs civilisations. L'objectif consiste à faire voir que, malgré des ressemblances, Les objets qui interviennent dans le mythe, les concaténations des catégories même, qui rendent ces récits possibles, ne sont pas toujours les mêmes. Et ce ne sont pas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que même les mêmes objets, les mêmes gestes, les mêmes rites, eh bien, ne sont pas universels. Ils sont universels comme une montre qu'on peut utiliser, ou un objet, un stylet, un marteau, sont universels, mais ils ne servent pas partout à la même chose. Ça, pour nous, c'est difficile à admettre, mais c'est comme cela, vous le verrez. Il ne faut donc pas prendre les objets en cause pour le mythe. Le mythe est constitué par les catégories qui s'y rencontrent et où ces outils interviennent, ces objets interviennent, et qui génèrent un sens en fonction de la langue et de la culture locale. À Rome, commençons par là, cette affaire nous ramène à nouveau au Capitole. C'est du rite du clou annuel, du clavus annalis, qu'il sera question. À l'autre extrémité du spectre chronologique, je prendrai une nouvelle allemande du XIXe siècle, appelée l'araignée noire, du Schwarze Spinne, qui a été écrite par le pasteur Jeremias Gotthelf, l'un des écrivains suisses majeurs de cette époque. Les rites et les éléments de ces mythes en croisent d'autres, que je ne traiterai pas, on n'a pas le temps. Celui d'Arachné, la tisserande qui fut transformée en araignée pour avoir affronté, dans un concours de tissage, Athéna Minerve. Il y a aussi l'aspect du mal, du côté romain comme du côté chrétien, avec une allusion claire au thème de l'origine du mal, mais je ne pourrais pas aller dans le détail pour cela. Un mot sur Jeremias Gotthelf, de son vrai nom Albert Bitzius, qui vécut entre 1797 et 1854. Issu d'une famille bernoise de fonctionnaires et de pasteurs, lui-même pasteur, pfarrer, comme on disait encore à l'époque, donc curé, mais pasteur, Bitzius devint, après ses études, vicaire et pfarrer, pasteur, dans l'Emmental, où il fut en fonction depuis 1832. Et c'est à partir de 1834 que commence son activité d'écrivain, soit dans le domaine de l'éducation du peuple, soit dans la littérature, et au début, surtout sous forme de nouvelles destinées à l'éducation populaire. C'est à ce type d'écrit qu'appartient sa nouvelle, sans doute la plus célèbre, « L'araignée noire », dont le ton moralisateur correspond parfaitement à ce projet, à cette volonté, et d'ailleurs au style de l'époque Biedermeier, dont le portrait porte aussi le reflet. Le reste ne nous intéresse pas ici. Les germanophones parmi vous ont peut-être lu le cycle de Uli le valet et de Elsie l'étrange servante, qui l'ont rendu célèbre à côté de nouvelles comme celle dont nous nous occupons. Racontons d'abord les deux histoires en cause avant de les comparer. Le clou annuel, le clavus annalis, apparaît dans deux contextes qui sont décrits par Tite-Live, toujours lui, dans son histoire romaine. Il rapporte qu'une vieille loi, écrite en lettres et en mots archaïques, prescrivait que celui qui serait grand préteur aux ides de septembre, le 13 septembre suivante, planterait le clou. C'est le rite de planter le clou. C'est Marcus Horatius, le premier consul, qui aurait fondé le temple de Jupiter avec cette règle. Ce clou, continue-t-il, était planté sur le côté droit du temple de Jupiter Optimus Maximus quand on le regardait, c'est-à-dire dans la partie gauche pour Jupiter, où se trouvait le sanctuaire de Minerve, la chapelle, la cella de Minerve. Et Tite-Live justifie cette pratique en invoquant le nombre réduit des citoyens qui étaient à même de reconnaître des lettres à cette époque. Pour comprendre cette remarque, il faut se rappeler que les dates annuelles romaines ne s'écrivaient pas avec des chiffres, mais avec des lettres. Par exemple, l'année 44 avant Jésus-Christ, on disait soit, quand on était érudit, Anno septingentesimo decimo ab urbe condita, depuis la fondation de la ville. Mais surtout, on disait que c'était l'année cinquième consulat de César et du premier consulat de Marc-Antoine, ce qui faisait un texte, et il fallait savoir lire. C'est à ça que Tite-Live fait allusion. Il était donc difficile de représenter la suite des années de façon simple, surtout pour des analphabètes, si vous voulez. Je reviens au texte de notre ami Tite-Live. Les clous représentaient le nombre d'années et la loi elle-même avait été dédiée, dit-il, sur le temple de Minerve, sur la paroi de sa celle-là, parce que le nombre était une invention de cette déesse qui est, je vous l'avais dit il y a 2 ans, ce sont les moyens intellectuels, la puissance intellectuelle des deux divinités souveraines, Jupiter et Junon. La même pratique, continue-t-il, est attestée par l'antiquaire Lucius Cincius au 1er siècle avant Jésus-Christ à Bolsena, au temple de la déesse étrusque Nortia. À Rome, le rite régulier, le solemne, comme il dit, du plantage du clou aurait été réservé ensuite au dictateur dont le pouvoir était supérieur à celui des consuls. Il est évident, d'après ce récit, que pour Tite-Live, il s'agissait d'un rite anniversaire, et c'est d'ailleurs ce que dit le terme de solemne, canonique, régulier. Cet anniversaire était celui de la fondation du temple de Jupiter aux Ides de septembre, le 13 septembre, qui était aussi le jour des Jeux romains. Rappelez-vous ça, c'est important pour la suite. L'abréviateur du dictionnaire de Festus, Paul Diacre, rapporte la même tradition en la généralisant puisqu'il écrit que la coutume concernait les temples sans préciser duquel ou desquels il s'agissait. Il est probable que Festus et le dictionnaire de Verrius Flaccus, que déjà Festus avait résumé, mentionnaient le temple de Capitolin, éventuellement celui de Nortia à Bolsena, et aussi celui de Mars Ultor, où, d'après Cassius Dion, Auguste aurait fondé la même tradition pour les censeurs. Il s'agit sans doute d'une de ces restaurations de coutumes jusqu'alors négligées qu'Auguste s'est attaché à réaliser sous la nouvelle version que désormais c'est les censeurs qui devaient pratiquer le rite. À ces traditions, Tite-Live en ajoute une autre. Il conclut le premier texte que nous avons déjà regardé en indiquant que la coutume en question avait été interrompue, on l'avait oublié, mais que l'élection de dictateur parut importante pour elle-même. Et c'est pourquoi on procéda alors, nous sommes ici en 363 avant Jésus-Christ, à l'élection d'un dictateur qu'on souhaitait chargé d'effectuer une mission politique, militaire, et non pas de s'acquitter simplement d'une obligation comme de faire planter un clou. On aurait donc oublié le rite du clou et on aurait dissocié la magistrature suprême, la dictature qui réunit tous les pouvoirs possibles, par exemple les pouvoirs des deux consuls, en un seul, pour en faire une vraie magistrature d'action. Donc vous voyez déjà, il y a des contradictions dans le texte de Tite-Live entre qui plante le clou, le préteur Maxime, le dictateur, et après le dictateur ne le fait plus, etc. Dans la suite de son récit, il y a une deuxième contradiction, un deuxième paradoxe, aspect paradoxal du rite. Tite-Live mentionne les clous dans un autre contexte. Nous sommes en 331 dans le récit. La première mention conclut le récit du fameux scandale des poisons quand on accusa les matrones romaines d'avoir tenté d'empoisonner leur mari. Un crime terrible. L'affaire fut considérée comme un prodige et l'on trouva mentionné dans les livres d'annales, les vieux livres de rapports annuels des pontifes, le fait que les clous avaient été plantés jadis au moment des sécessions de la plèbe et que grâce à ce rite expiatoire, les esprits aliénés étaient redevenus maîtres d'eux-mêmes. Donc la plèbe, dans les conflits entre patriciens et plébéiens, avait, à certains moments, abandonné Rome pour s'installer ailleurs et avait menacé de faire éclater la cité de Rome. Mais en plantant le clou à titre expiatoire, les esprits aliénés sont redevenus raisonnables. On décida donc de procéder à ce rituel pour rendre les matrones de nouveau raisonnables et ne plus tuer leur mari. En 313, le même rite se trouve brièvement mentionné à l'occasion d'une épidémie. On voit la parenté du rite, enfin de l'objectif du rite. Voilà le dossier. Il a suscité de nombreuses interprétations et discussions, évidemment. Le principal problème étant de concilier les deux versions du rite. L'une qui est de type calendaire, chaque année on fait cela. L'autre de type apotropaïque est liée au hasard des crises, des événements. Laissons de côté le dictateur, le prêteur Maximus, etc. C'est pas intéressant dans notre contexte. En outre, à ceux qui suivent l'explication de Tite-Live, qui considèrent que les clous servaient à marquer les années, s'oppose l'opinion de Théodore Mommsen, qui pensait, quant à lui, qu'il s'agissait d'un clou qui marquait en fait le passage d'un siècle à l'autre. Avant d'aller plus loin, il convient donc de faire le point sur ces disputes et ces discussions. Un premier élément peut être tout de suite éliminé, dans la mesure où il ne nous intéresse pas ici, c'est le fait que la mention que fait Tite-Live d'une note de l'antiquaire Lucius Cincius sur Bolsena. Cette information a suscité alors toute une série d'hypothèses. Elles étaient dues au fait qu'une déesse étrusque, Nortia, est associée dans la Volsinie romaine au même rite et qu'au moment de la fondation du Capitole, Rome était encore, si l'on suit l'histoire légendaire de ses origines, une cité étrusque. Donc, vous voyez les communications qui pouvaient se faire. Dans l'enthousiasme des découvertes archéologiques du XXe siècle, des historiens aussi divers que Jacques Urgon, Andreas Alföldi, Josef Ambros Pfiffig, parmi d'autres, ont conclu que le rite du clou de Rome était d'origine étrusque et qu'on a voulu rapprocher de ce rite un certain nombre de témoignages indirects. Le fait est que le témoignage de Cincius date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui provient d'une cité romaine refondée depuis deux siècles environ à Bolsena, Volsinie, après la prise en 290 avant Jésus-Christ de Volsinie, de la Volsinie étrusque Orvieto, qui est à 60 km. Rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un usage ancien, que l'usage volsinien provenait d'Étrurie ou de Rome, et surtout que le rite romain était originaire d'Étrurie, où la pratique du clou annuel n'est d'ailleurs pas attestée par les sources. Nous n'avons que des renseignements sur des cités romaines, Rome et Bolsena, Volsinie. Quant à l'usage du comptage des années, il paraît absurde que dans le même texte, Tite-Live affirme qu'une vieille lex, un vieux règlement affiché au Capitole ait pu prescrire cette pratique, dans la mesure où on peut supposer que des gens qui savaient lire et écrire des textes de loi et des règlements étaient également capables de compter sans clou. Théodore Mommsen avait certes pensé à un clou séculaire, sans doute en relation avec une autre tradition mythique, encore une fois, étrusque, sur le saeculum, le siècle, et qui est en rapport avec les jeux séculaires d'Auguste. Mais quelle était la fonction de ces clous? J'ai l'impression que les clous annuels servaient moins au comptage pur et simple des années, ou même des siècles, qu'à proclamer que les années avaient été accomplies sans malheur particulier. Luciana Foresti et d'autres historiens font le rapprochement entre ce plantage du clou et les clous porteurs d'inscriptions royales que les archéologues découvrent dans les temples et les palais de l'Orient ancien pour démontrer que le rite lui-même était possible, un rite expiatoire, quelque chose. Tout cela est certain, mais encore faudrait-il savoir un peu plus sur ces clous romains eux-mêmes Était-il, par exemple, porteur d'inscriptions ? On n'en sait rien, pour qu'on puisse aller aussi loin dans la comparaison aux clous orientaux. Et sur la prière, il faudrait aussi connaître la prière qui était récitée au moment où on les plantait. Il y a en fait une autre application du même rite que Tite-Live rapporte pour les années 331 et 313, et qu'il interprète comme des rites expiatoires, un piaculum. On rapproche cette pratique de celle des clous utilisés lors des défictions magiques qu'on a vues l'an dernier, et quand nous étudions la piété individuelle. Pline mentionne que l'usage qui consistait à fixer, défigurer un clou de fer à l'endroit où la tête d'un épileptique avait tapé au moment où il s'écroulait, et cet usage libérait l'épileptique de son mal. Donc on fixe le mal en quelque sorte à l'endroit où il a heurté la terre. Des clous étaient également utilisés, toujours d'après Pline l'Ancien, contre la fièvre quarte ou la foudre, mais cette fois-ci, ils étaient entourés ou couverts. Laissons pour l'instant des proverbes qui évoquent aussi la fixation des destinées humaines opérées par une divinité, car il ne s'agit pas exactement du même contexte. Je ne veux pas aller plus loin. Je me contenterai de noter que les clous enfoncés dans le sol ou dans un mur ou dans des poutres, suivant dans le cas de certains proverbes que nous verrons, fixent quelque chose, un mal, une année, une destinée ou un risque. Cet usage est indéniablement attesté pour le 4e siècle avant Jésus-Christ chez Tite-Live et même sur les fastes consulaires pour l'année 263 avant Jésus-Christ. Tite-Live, vous avez vu les fastes consulaires, comment on note les années, vous voyez 490 après la fondation de Rome, 91 après la fondation de Rome, on met les deux noms des consuls et également Bellum Punicum Primum, nous sommes à l'époque de la première guerre punique, on met en 263 avant Jésus-Christ « Dictator clavi figendi causa », on a été un tel, Gnaeus Fulvius Centum Malus a été dictateur pour figer, pour enfoncer le clou à cette époque, en raison de malheur quelconque. Quelle que soit l'interprétation qu'il faille accorder à la pratique de Bolsena, rapportée par Lucius Cincius au 1er siècle avant notre ère, le rite est encore attesté tardivement par rapport à la fondation du Capitole. Donc, les interprétations sont au nombre de deux. Certains historiens modernes ont considéré que Tite-Live avait en fait combiné les deux traditions, la tradition année après année, pour compter les années, et la tradition du piaculum. Cette hypothèse ne nous avance pas beaucoup. Elle semble destinée à dévaloriser l'interprétation rituelle, magique si vous voulez, que certains d'entre eux considéraient comme négligeable et peu crédible, parce que les rites c'est méprisable, alors que l'autre tradition, liée au plus vénérable temple romain, aux origines de la République, à la magistrature suprême, leur inspirait davantage confiance. D'autant plus que le triomphe, le costume du triomphateur et certains autres éléments du pouvoir romain sont censés provenir d'Étrurie, ce qui permet d'ajouter au rite étrusque transplanté à Rome un élément de poids supplémentaire. Or, il convient de ne pas oublier que nous sommes en fait, dans tout cela, dans un contexte mythique, fondation du Capitole, la tête d'Aulus, tout ce que vous voulez, la fondation de ce clou anal tel qu'il est raconté par Tite-Live, nous sommes dans une reconstruction légendaire qui se fonde sur des rites postérieurs qui sont projetés dans le passé et échappent donc à tout contrôle historique. D'autant plus que le témoignage est attesté chez Tite-Live, au début de notre ère, au début de l'ère chrétienne, et non chez un historien plus ancien. Et on peut imaginer, comme je l'ai dit, qu'il a copié ça chez un analyste plus ancien, mais enfin, nous n'en savons rien. À l'époque à laquelle les études sur le clavus analis, que je critiques, donc à la suite de Luciana Foresti, ont été écrites, ces textes étaient considérés comme des documents historiques de première main. C'est une tendance qui se rencontre encore parfois dans le milieu des études étrusques, où même ce qu'on écrit sur le 8e siècle avant Jésus-Christ, chez Tite-Live, passe pour parole d'évangile. Pour ma part, je considère, comme le font la plupart des historiens, qu'il s'agit d'une tradition mythique, étiologique, qui est certes passionnante et intéressante en elle-même, mais qui n'a rien à voir avec un témoignage historique et institutionnel direct. Dans ce cas, je viens de le répéter, aucune des versions du mythe n'est préférable à l'autre. Ce sont pour les deux anciens deux interprétations d'égale valeur. Le fait que Tite-Live juxtapose les deux rites en donnant un minimum d'explications plaide d'ailleurs en faveur du caractère mythique de la tradition. On ne savait plus à son époque laquelle des versions était bonne. En revanche, quand il raconte que le clou est utilisé à des fins propitiatoires, expiatoires, nous approchons de la partie historique de son récit, où il a des sources. Et ce sont des vrais rites à ce moment-là. Même s'il ne les explique pas, nous essayons de comprendre. Il y a d'ailleurs un problème surprenant dans cette histoire du traitement du rite du clou par les historiens modernes, par rapport à Tite-Live. Le texte de Tite-Live qui associe, que nous avons vu, le rite du clou à la fondation du Capitole et qui est cité par tous, contient en fait un développement qui n'est jamais cité par les modernes lorsqu'ils discutent cette tradition. Et c'est par là que le texte commence. Si on lit le texte sans faire de coupe arbitraire, on se rend compte que le rite du clou représente en fait, tel que nous l'avons vu, un deuxième épisode du récit de la fondation des Jeux romains du 13 septembre. En 363, rapporte Tite-Live, donc ça précède le récit que nous avions vu. En 363, ces Jeux romains avaient été complétés par des Jeux scéniques, théâtre, etc., dans l'espoir de conjurer ainsi une épidémie. Donc on avait déjà fait un rite expiatoire supplémentaire en ajoutant des pièces scéniques aux jeux du cirque, qui étaient des courses, si vous voulez. On avait, dans un premier temps, célébré un lectisterne, un de ces grands banquets collectifs qui rassemblaient les dieux et les familles, mais ça avait été sans repas. Comme rien ne calmait encore la violence du mal de cette épidémie, ni la sagesse humaine, ni l'assistance divine, la superstition, l'angoisse s'empara des esprits, rapporte Tite-Live, et l'on dit qu'alors, entre autres moyens d'apaiser le courroux céleste, on imaginait les jeux célestes, c'est une nouveauté pour ce peuple guerrier qui n'avait d'autre spectacle que les jeux du cirque, les courses de chars. Mais leur célébration n'avait pas suffi à guérir les corps. Donc, ça ne sert à rien. S'y ajoutait en outre une inondation catastrophique du Tibre qui avait même interrompu les Jeux en inondant le Grand Cirque. L'année suivante, les autorités auraient donc cherché des moyens d'expier la colère des dieux. Et les anciens se seraient alors rappelés qu'autrefois un dictateur, en enfonçant le clou, avait calmé la peste. Pestilentiam quondam clavo ab dictatore fixo sedatum. Le sedat ordonna alors d'élire un dictateur pour enfoncer le clou. Puis le texte continue en signalant qu'une vieille lex ordonnant que le praetor maximus fixe le clou, etc., le 13 septembre. C'est ce que nous avons déjà vu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Tite-Live définit en fait dès le départ le rite du clou comme un piaculum utilisé pour mettre un terme à une épidémie, comme dans les histoires suivantes que nous avons vues dans lesquelles il évoque le rite. La fonction chronologique attribuée à ces clous, qui est racontée ensuite, renvoie manifestement à un autre usage de cette tradition dont rien ne nous dit qu'elle fut effectivement utilisée à Rome comme à Bolsena. La précision concernant l'oubli dans lequel était tombée cette tradition telle que la rapporte Tite-Live dans le même passage, vient confirmer notre soupçon. Elle prouve que la régularité de cette pratique n'était consignée dans aucun des documents disponibles. Il convient, pour comprendre ce qui a pu se passer, de rapprocher les deux bouts du récit de Tite-Live. On décide de ramener la vieille pratique du clou expiatoire et on décide que ce rite aura lieu chaque année le 13 septembre. À partir de là, l'historien ou sa source imagine que ces clous permettaient de compter les années. Une parenthèse. Au terme de tant d'années de réflexion sur les restaurations augustéennes, je ne cesse d'avoir l'impression que le récit de Tite-Live y ressemble souvent beaucoup. Recueillant une tradition sur la pratique du clou, Tite-Live rend, dans ce passage, annuel, ce qui auparavant n'était qu'un rite occasionnel lié à une épidémie ou une autre catastrophe. J'ai l'impression, sans avoir évidemment d'autres arguments, qu'Auguste a fait à Lavinium, à Cecina, peut-être à Gabi, en renouvelant un traité. C'est mes seuls arguments. Auguste faisait ainsi. Donc, il est très possible que tout ça, c'est une sorte de reconstruction comme celle qu'on faisait à l'époque d'Auguste. Revenons donc à ce récit. Seul m'intéresse dans ce récit la tradition rituelle relative au clou. Si l'on suit Tite-Live et quelques autres auteurs, enfoncer un clou dans une paroi de temple ou ailleurs a donc pour effet de fixer et de désarmer un mal qui peut être une épidémie, une maladie ou un égarement des esprits. L'acteur inflige à ce mal, des corps ou des esprits, le même traitement que celui que le sorcier inflige à un ennemi. Il le rend immobile, il le bloque, il l'élimine. Nous en avons parlé l'an dernier. C'est cela que le plantage du clou représente, et d'ailleurs, ce dont il conserve la mémoire dans la suite. Quand des Romains voyaient de tels clous dans des endroits collectifs, comme sur la paroi du temple capitolin, notons qu'il n'était plus possible à l'époque de Tite-Live de voir cela, puisque le temple avait brûlé deux générations plus tôt. Il comprenait qu'un mal avait été arrêté par la cérémonie signalée par le clou. Nous avons aussi un passage chez Cassius Dion qu'Auguste, effectivement, a restauré ce rite du clou, mais ailleurs qu'on ne le pense. Il l'a fait sur une paroi du temple de Mars Ultor, Mars Vengeur, qui se trouvait près du forum romain, c'est le forum d'Auguste, comme on dit. Le texte ne dit pas du tout où ce clou serait enfoncé, et on peut supposer que c'est dans le mur du temple. La cérémonie n'est pas non plus la même que celle du Capitole, dont nous n'entendons plus parler à cette date. Il s'agit, à mon avis, de la restauration effectuée par Auguste, d'un vieux rite, peut-être du vieux rite, abandonné depuis longtemps et dont nous parle Tite-Live, et qui est récité sous une nouvelle forme dans le temple de Mars Vengeur. Nous ignorons tout du rite lui-même, sauf le lien avec le lieu où il est célébré et les magistrats qui en étaient responsables. Désormais, ce sont les censeurs. Je comprends que, d'après le peu qu'on nous dit, que le rite du clou concluait le recensement du peuple romain. Et ceci peut autoriser une hypothèse concernant le rite du clou en lui-même à cette époque. Dans la mesure où le recensement constituait et fondait en quelque sorte le peuple romain pour les 5 années à venir, le clou se trouvait peut-être en relation avec les vœux au dieu Mars que les censeurs acquittaient après chaque recensement, mais au champ de Mars, vers l'actuelle église du Gesù. C'est donc une fois ce rite accompli qu'il se serait rendu au temple de Mars Ultor pour y planter le clou. Ce qui signifie qu'ils constataient et acquittaient leurs vœux près de l'autel de Mars, au champ de Mars, que le peuple romain était donc dans le même état que dans celui où il se trouvait 5 ans plus tôt, voire dans un état meilleur. Et ensuite, il se serait rendu à 500 mètres au forum d'Auguste pour planter le clou qui confirmait en quelque sorte cela dans la paroi du temple, et il fixait, pour ainsi dire, cette salus, ce bon état général du peuple par ce rite. On le voit, il ne s'agit pas dans ce cas d'un mal, mais plutôt d'un bien, puisque c'est le bon état général du peuple romain qui est ainsi constaté et pérennisé. Pour comprendre cela, il n'est pas inutile d'évoquer à la fois un passage d'Horace et un proverbe romain déjà cité. dans la 135e ode du premier livre des odes, qui s'adresse à Fortuna, la fortune, Horace décrit cette divinité comme étant précédée par la déesse Necessitas, nécessité, qui porte des clous de charpente. Trabales, ce sont les charpentes. Trabalis. La nécessité porte des clous de charpentier, des coins, du plomb et des crampons pour fixer la destinée humaine. Et on voit le rapport avec fortune. Et le poète répète la même image au troisième livre dans la 24e ode. Donc, s'il est vrai que l'implacable nécessité enfonce ses clous d'acier aux faits les plus hauts, virgule, tu ne pourras dégager ton âme de la crainte, la tête des filets de la mort. Parce que la destinée est fixée, on ne peut plus la bouger. Vous voyez, c'est le même rite que celui qui est en cause dans notre rite. Et il y a aussi la même type de locution, presque proverbale, dans la 5e verrine de Cicéron, où il dit, et pour fixer ce bienfait que Verrès avait accordé au Mamertin, et pour fixer ce bienfait par un clou de charpente, hein, clavem, trabali clavo, figueret, hein, vocabulaire de la défiction, comme on dit, dit-il, c'est proverbial, il instruit l'affaire des Mamertins avec son conseil et leur donne ce bienfait, etc. Donc le proverbe dit la même chose. J'ai l'impression que le clou fixé par les censeurs est de ceux-là. Il pérennise l'état de salus du peuple romain tel que les censeurs l'ont constaté, au moins jusqu'au prochain recensement. D'autant plus que nous sommes ici dans le temple du dieu qui était directement concerné par le vœu des censeurs, Mars, puisque le grand sacrifice qui faisait suite au lustrum, à la procession des victimes sous Ovetoril autour du peuple romain recensé, était offert à ce dieu. Il n'existe pas d'indice permettant de supposer que le sacrifice des sous Ovetoril s'effectuait dans un lieu où résidait Marsultor, qui était simplement chargé de venger les atteintes portées à la sécurité du peuple romain. Et il n'a pas privé Mars, du champ de Mars, de ses rites, de ses prérogatives. D'ailleurs, le rite n'a pas dû être célébré très longtemps, puisque dès les premières années du Principat, les recensements devinrent très périodiques et ils disparurent totalement sous Domitien, vers 81-2 après Jésus-Christ, quand ils devenaient des procédures administratives régulières.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec les derniers cours du professeur John Shedd. Belle journée à tous à l'écoute de France Culture.
Thank you.